Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Si vous n'avez pas pu venir à la journée porte ouverte des fouilles de l'INRAP au 45-49 rue de Beaucaire, voici in situ le commentaire des archéologues après une présentation de l'INRAP par Jean-Yves Breuil, directeur adjoint scientifique et technique. Entre chaque interview, petit clin d'œil à Indiana Jones, l'archéologue le plus connu, mais loin de la réalité de l'INRAP, des objectifs scientifiques très sérieux.
Alors l'INRAP, c'est quoi l'INRAP? C'est un établissement public qui dépend du ministère de la Culture et du ministère de la Recherche, qui a été créé il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Ça veut dire Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Alors derrière ce vocable un peu compliqué, qu'est-ce que ça cache? Ça cache évidemment, il y a le mot archéologie, donc on fait des fouilles archéologiques. Et le mot préventif, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'on les fait avant l'aménagement du territoire, avant la construction des immeubles, des parkings. Voilà, on sauve par l'étude les informations archéologiques, les vestiges archéologiques qui vont être détruits de fait par l'aménagement en question. Voilà, c'est ça le cœur de l'Institut. Alors il y a aussi des missions de valorisation qui sont faites par l'Institut. Et en l'occurrence, samedi, on organise ce qu'on appelle une journée porte ouverte à destination du public local et de tous les curieux pour montrer une fouille qu'on conduit en ce moment au 45-49 rue de Beaucaire, une fouille en cours, pour montrer au public comment on pratique et quelles trouvailles on a fait.
Oui, vous disiez tout à l'heure que vous avez reçu des élèves qui habitent dans le quartier et que ça, c'est extraordinaire pour eux. Ils prennent conscience justement de
passer. Exactement, c'est ce qu'on essaye de faire. On a allé dans les classes en lien avec les professeurs de CM1 et de CM2 de trois écoles primaires du voisinage, du quartier. Et puis les écoliers sont venus sur site, sur le chantier, pour voir comment les archéologues travaillent en ce moment. C'est intéressant parce que ça met un peu de, comment dire, de matérialité à l'étude exactement, de l'Antiquité romaine. Et puis, alors peut-être, oui. Et puis, c'est montré aussi que finalement, l'histoire romaine, elle se passe tout à côté de chez eux. Oui. Et qu'il y a 2000 ans, il y avait des gens qui habitaient ici. Et que ce n'est pas seulement dans les livres, ce n'est pas seulement à Rome ou dans les musées. C'est aussi leur quotidien, juste à côté de leur maison. Ça permet aussi de remettre un petit peu de sens aux quelques vestiges qui sont encore en place à Nîmes, par exemple, je pense à la porte d'Auguste, qui est l'entrée de la voie domitienne et donc de la rue de Beaucaire dans la ville à l'époque romaine. Je suis Jean-Yves Breuil, je suis directeur scientifique et technique à l'INRAP, à l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Et on mène en ce moment une fouille archéologique au 45-49 rue de Beaucaire à Nîmes, en amont de la construction d'un bâtiment par Habitat du Gard. On est là donc pour sauver les vestiges qu'on a retrouvés. Il s'agit de vestiges d'époque romaine. Et notamment, on a retrouvé une très grande voie, large de 15 mètres. Une seconde voie, en fait, puisque notre chantier se situe tout à côté de l'ancienne Via Domitia, qui est cachée actuellement par la rue de Beaucaire. Eh bien, nous avons trouvé, quelques mètres à côté, une seconde et importante voie datant à peu près de la même époque, c'est-à-dire des débuts de la colonisation romaine, vers 120 avant Jésus-Christ. Et comme ça se passe à cette époque-là, les Romains ont l'habitude d'enterrer, d'inhumer leurs morts en bordure des voies, on a trouvé toute une série d'enclos funéraires, ces petits espaces matérialisés parfois par des murs, à l'intérieur desquels les Romains viennent pratiquer l'incinération ou l'inhumation. Pour le coup ici, c'est beaucoup des pratiques de crémation, c'est-à-dire qu'on retrouve des bûchers funéraires, des endroits où les défunts ont été brûlés, et puis on retrouve des tombes, ce que nous, dans notre jargon, on appelle des dépôts secondaires, là où les résidus de combustion du bûcher, donc des fragments d'os, des fragments d'objets, vont être mis dans des urnes funéraires et enterrés dans la terre avec les objets personnels du défunt. Voilà. On a trouvé en particulier de très belles, très beaux objets, très très bien conservés, hein, des lampes de terre cuite, des petites fioles en verre qui contiennent souvent des parfums, des onguents, une très belle lampe en bronze aussi, qui provient des fouilles de cette tombe. Mais ce qui est nouveau, c'est la trouvaille d'une seconde grande voie, hein, aux abords de Nîmes. Hein. On est vraiment là dans un des vestiges de la romanisation, hein, de la création de la province de Narbonnaise. Et l'importance de cette seconde voie, elle est confirmée par le fait que, comme sur la voie domitienne, eh bien, il y a des enclos qui viennent, des enclos funéraires qui viennent s'accrocher à cette voie. Donc, voie domitienne et cette seconde voie qu'on appelle voie de Grésan, parce qu'on ne sait pas encore vraiment où elle nous conduit, eh bien, ces deux voies sont très attractives, très importantes. C'est tout l'intérêt et la difficulté d'une fouille préventive, hein, c'est-à-dire qu'on est là parce qu'il y a un projet immobilier, et c'est très bien, mais avant que ce projet se vienne enlever tous les vestiges, les archéologues viennent sauver par l'étude les vestiges. C'est comme un ancien livre dont on découvre chaque page, plus ou moins bien écrite, avec des pages qui manquent, mais que chaque fois qu'on lit, on la déchire. Donc on est les derniers lecteurs de ce livre enfoui. Donc d'où toute l'importance de ce travail et son sérieux scientifique aussi. S'il y a la fouille, c'est parce qu'il y a risque de destruction. S'il n'y avait pas eu de risque de destruction par l'aménagement, eh bien, les vestiges auraient été laissés en place, parce que la meilleure façon finalement de les conserver, eh bien, c'est de les laisser encore enfouis pour les générations futures.
Marie Rochette, on sent toute votre passion quand vous nous présentez cette fouille. Ce n'est pas la première. Vous avez une longue carrière derrière vous. Et quel est l'étonnant de cette fouille au 45-49 rue de Beaucaire?
Alors, l'intérêt de cette fouille, c'est déjà de compléter les connaissances que l'on a le long de la voie de la rue de Beaucaire, rue et route de Beaucaire, parce qu'on a déjà fait des fouilles le long de cet axe contemporain, enfin de cette rue. Mais c'est ça, qui va d'un côté jusqu'à la porte d'Auguste, et puis de l'autre côté, au bout de la route de Beaucaire, vers le périphérique, enfin, je ne sais plus si c'est encore la Salvor-Lendé. Voilà. Donc on a eu l'occasion de faire plusieurs opérations ces dernières décennies. Donc cette fouille, elle complète la vision que l'on a le long de cette rue. La rue de Beaucaire, c'est la voie domitienne. C'est une voie romaine qui est très importante, qui n'a pas été fouillée parce qu'elle est sous la voirie actuelle. Mais ça permet de mieux connaître ses abords. Ce qui est néanmoins particulièrement intéressant ici, au 45-49 rue de Beaucaire, c'est la mise au jour d'une nouvelle voie qui est aussi importante, semble-t-il, que la voie domitienne dans ses dimensions et dans sa mise en œuvre. C'est-à-dire que la voie domitienne fait 17 mètres de large et celle-ci en fait 15. Elle est constituée de chaussées empierrées qui sont entretenues, où on lit des traces d'usure parce qu'on voit les ornières liées au passage successif des chariots et qui, une fois qu'elles sont trop profondes, sont réparées, sont colmatées, sont comblées. Et puis, quand il y a eu un épisode Sévenol trop important, ça a laissé beaucoup de boue, ben on remet des pierres pour reconstituer la voirie. Donc on sent un usage, un entretien important.
Mais en fait, elle est inachevée ou vous ne savez pas où elle va?
Alors, grande question. Non, en fait, elle est ce que l'on en voit dans les limites de la parcelle. Puisqu'on fouille 1000 mètres carrés qui sont liés à un projet d'aménagement par l'Office de l'Habitat du Gard qui construit un immeuble d'habitation sur un parking souterrain. Donc elle est ce que l'on en voit dans la fenêtre qui nous est offerte à cette occasion-là.
Elle est en dessous, on ne va pas raser les autres immeubles.
Alors elle se poursuit certainement. J'espère, elle se poursuit certainement côté est et côté ouest. Après, côté ouest, elle va vers l'enceinte, vers la porte d'Auguste. Après, elle rentre pas nécessairement par la porte d'Auguste. Voilà, on ne sait pas trop comment, mais comment ça fonctionne de ce côté.
Donc une jonction, c'est ça qui est intéressant.
Alors, pas forcément. C'est difficile de dire parce qu'on ne le fouille pas. Il est certain que comme elle n'est pas parallèle à la voie domitienne, elle doit la rencontrer. Elle la rencontre à peu près au niveau du croisement de la rue de Beaucaire et de la rue Notre-Dame. Après, on ne la fouille pas, donc on ne sait pas qui coupe qui. Ça nous aurait bien aidé. Ça aurait donné une notion de chronologie, laquelle est avant l'autre. Là, ce n'est pas le cas. Il est quand même probable qu'elles aient fonctionné en même temps, ces deux voies. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir deux très grandes voies à proximité et d'avoir l'opportunité de fouiller les vestiges qui sont entre ces deux voies et au nord de la deuxième voie qu'on est en train de découvrir.
Il n'y a aucune trace documentaire, il n'y a aucune archive qui pourrait vous aider à...
Alors, pour l'époque, les archives, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Hein, voilà,
des tablettes, peut-être.
Ouais, non, mais voilà, de la cartographie, il n'y en a pas non plus. Donc non, on n'a pas d'indice. C'est une voie qu'on ne connaît pas du tout, ou très peu.
Est-ce que ça fait le sel, je dirais, de votre métier? Parce que c'est un métier qui suscite peut-être beaucoup d'admiration, beaucoup de surprises, mais aussi beaucoup de frustration.
je ne sais pas. C'est difficile. Non, de la frustration, non. On est déjà satisfait et curieux de ce qu'on a l'occasion de découvrir. Ça ouvre quand même un champ de questions et d'interrogations qu'il va nous falloir creuser, argumenter, etc. Ça va bien nous occuper déjà.
Oui, et puis il y a beaucoup de métiers différents, parce que quand vous me montriez les objets, c'est une autre spécialité pour savoir d'où ils viennent, etc.
Et je vais juste répondre à la frustration. On est de nature patiente, hein, c'est le métier
qui veut
ça.
Il faut, je pense. Hein.
Donc, moi, ce n'est pas la première opération que je fais le long de la voie de la rue de Beaucaire, le long de la voie domitienne. Donc, j'aurai peut-être des informations plus tard, mais je n'ai pas toutes les informations. Mais c'est aussi parce qu'on découvre des vestiges qui sont ce qu'ils sont dans le sous-sol. Ouais. Non, ce n'est pas du tout une source de frustration, au contraire. On est très heureux de pouvoir connaître par petites touches un peu mieux la ville romaine de Nîmes. Non, c'est une opportunité, pas du tout.
Et on sent, j'ai commencé par cela, votre joie quand vous nous montrez les objets, vous les déballez avec délicatesse. Ils sont à l'état brut, mais ils sont déjà un petit peu nettoyés tout de même.
Bah oui, là, ceux-là, ils ont été nettoyés. Ce que vous avez vu avec Julie, ça ne l'est pas. Oui, bien sûr, c'est très joli, c'est très beau. Après, mais des vestiges moins bien, moins beaux, moins prestigieux font tout autant plaisir. C'est surtout, enfin, au-delà de l'objet, c'est surtout ce qu'on va en tirer, la compréhension que l'on va avoir de la constitution de la tombe. Et au-delà de la tombe, c'est la compréhension ou une meilleure connaissance des habitants, des Romains de Nîmes. Enfin, voilà. C'est de comprendre.
Il y a une finalité. C'est
mais
pas
bien
que
sûr.
Découvrir.
Mais non. Bah non, évidemment que non.
C'est vrai que ces bûchers funéraires à l'entrée sont assez extraordinaires.
Ouais, ils sont très chauds, ils sont très beaux. Surtout les bûchers construits. Ouais. On a beaucoup de bûchers construits. Donc maçonné avec des murs à l'intérieur. Il y en a au moins 3 sur le site, ce qui est quand même assez important. Donc voilà, non, c'est vraiment une belle découverte. C'est un beau chantier et pour lequel on fait des journées portes ouvertes samedi.
Gratuites.
Voilà,
réservation.
Et c'est les archéologues qui fouillent, qui feront les visites. Donc c'est intéressant et ça permet de leur poser toutes les questions et d'avoir plein
de
curiosités.
Et vous êtes là, vous avez commencé les fouilles.
On a démarré le 23 juin et on terminera autour du 14 juin. Pas du tout. Du 23 janvier.
Je crois que vous avez
voilà.
Dit.
Voilà, ouais, 23
ça
janvier.
Fait 6 mois pour...
C'est ça, et on terminera le 14 juin.
Pour aller sur un autre chantier.
Oui, certainement, oui. Bah, déjà, on va étudier aussi celui-ci, hein, parce que la
fin... 8 mètres carrés, c'est beaucoup, hein.
Ouais, c'est une grande parcelle, et puis la fin du terrain n'indique pas la fin du chantier. C'est une autre étape qui s'ouvre, celle de l'étude par le détail, de la compréhension, de la lecture stratigraphique, de la mise en relation des éléments découverts à droite et à gauche sur le site. Donc au contraire, c'est une étape tout à fait
tout
passionnante,
aussi importante.
Ouais, vraiment qui va s'ouvrir pour nous.
Merci à vous.
Merci à vous.
Alors nous continuons dans cette découverte de chantier au 45-49 et avec Julie Grimaud qui va nous dire d'abord votre spécialité. Donc Julie Grimaud, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait.
Moi j'ai été émerveillée de ce que vous nous avez montré. Alors à l'entrée il y a les bûchers funéraires.
Exactement.
Donc Marie, Yves nous ont expliqué.
Oui.
Et vous en fait vous êtes...
Là on est dans... Alors ce que vous avez vu à l'entrée avec les bûchers funéraires, on est sur des espaces funéraires qui sont entre les deux voies, donc entre la voie domitienne et le chemin de Grésan. Ici on est directement au nord de la seconde voie, donc du chemin de Grésan, et on est dans un enclos qui est délimité par des murs. Et dans cet enclos, on n'a pas de bûcher pour le moment. Après, on a pas son extension complète.
Hein. Oui, après, donc, il y a les autres.
Exactement,
qui...
ça passe dans les parcelles voisines. Mais nous, ce qu'on a ici, on a une quinzaine de structures funéraires qui sont majoritairement liées à la crémation. Et on a donc des tombes qui sont des dépôts secondaires. On appelle ça les dépôts secondaires de crémation. Parce que la première action, c'est de brûler les défunts sur les bûchers. Et la seconde action, c'est de prélever une partie du squelette, parfois beaucoup d'ossements, parfois simplement une simple poignée.
Et de les mettre
exactement dans un ici, donc celle que je suis en train de fouiller que vous avez,
plus avancée peut-être,
qui est la plus avancée du secteur, tout à fait,
oui, parce que je vois vos collègues,
ça démarre là, ça vient juste de démarrer.
Exactement. Et en fait on voit le rond au sol, oui, pour indiquer que là il y a une amphore. Là c'est pas une amphore,
non, là c'est un coffrage. C'est un coffrage de pierre.
Et alors c'est le site assez extraordinaire. Alors je ne sais pas si j'ai entendu, quelle est votre spécialité vraiment?
Moi je suis archéo-anthropologue.
Donc vous travaillez sur les.
Sur les gestes funéraires. Je ne suis pas anthropologue biologique. Hein. Je ne travaille pas sur le squelette en tant que tel.
D'accord.
Moi je travaille sur les gestes funéraires, sur les rites.
Donc là, si vous nous décrivez cette amphore, ce premier contenant.
Oui, donc ce premier contenant. Alors en fait, le premier contenant, en fait, vous voyez, on a. D'abord, ils creusent une fosse, ils font un trou dans lequel ils ont déposé une amphore. Et à l'intérieur de cette amphore, c'est-à-dire que c'est l'amphore elle-même qui est le réceptacle, dans cette amphore, il y a l'ossuaire qui est un vase en verre. Ce qui se passe, c'est qu'on a le haut de l'amphore, la hanse et le col qui se sont effondrés, exactement.
Ouais. Ouais, on les voit sur les côtés, là. Ouais.
Effondrés au-dessus de l'ossuaire. Et là, commence à apparaître, sous cet effondrement, commence à apparaître un petit gobelet en verre qui fait partie des offrandes au moment de la mise en terre.
Ah oui, c'est pas une autre urne funéraire, c'est une offrande.
C'est une
comme
offrande.
Les petits vases qu'on nous a montrés.
Exactement.
Tout à l'heure.
C'est le même principe. Là, on
donc
va être sur
l'offrande. Donc, c'était à l'extérieur, en fait.
Non, on est toujours dans l'amphore. On est toujours dans l'amphore, mais l'amphore est quand même assez large, donc il y a de la place pour mettre pas mal de choses. Moi, mon prochain travail. Là, ça va être d'enlever d'abord les éléments qui se sont effondrés dessus, donc les éléments de l'amphore qui sont tombés, pour pouvoir arriver sur le niveau qui correspond au dépôt.
Au dépôt, c'est-à-dire des ossements ou dents.
Alors les os, ils vont être dans le verre et ça, dans l'urne en verre, et ça va être fouillé plus tard. Ça, on
plus
va
tard.
Le prélever.
D'accord.
Et on va aller le fouiller en laboratoire. Autour de cette urne, je peux avoir de tout.
Oui.
Je peux ne pas avoir grand-chose de conservé. Je peux avoir des lampes à huile, d'autres petits gobelets en céramique.
Donc tout est minutieusement conservé, à noter, il y a les chiffres tout autour pour votre repérage, pour les photos.
Oui. Oui, c'est des fouilles qui demandent beaucoup d'enregistrement.
Bien sûr. Oui. Et je posais la question tout à l'heure pour les tout petits vases qui sont sortis. Pourquoi ce bleu? Est-ce que c'est d'origine, couleur
d'origine.
C'est d'origine.
Oui, c'est le vert qui n'est pas teinté, en fait. C'est le vert naturel.
Ah, c'est le vert naturel. Ouais. Parce qu'on voit du marron, du bleu dégradé.
Alors, par contre, le marron, c'est de l'oxydation.
C'est l'oxydation.
Ou en tout cas, un élément du haut temps. Au départ, il était bleu. Le vase devait être bleu. Comme le col. C'est juste que le col est plus épais.
Je suis étonnée tout de même de la dimension de ce vase en verre. Il est fait pour le funéraire, ou vous pensez?
Pas forcément. Ça peut être du remploi aussi. Ça peut être les deux. Mais la dimension.
Parce qu'on a vu tout à l'heure présenté par Marie Rochette des tout petits. Alors là, ça me semble.
Ah, les tout petits gobelets?
Oui.
Ah, mais alors, celle qu'elle vous a montrée, la tombe était encore très différente. C'est-à-dire que les os, pour le moment, il y avait quelques petites esquilles dans la fosse, mais on n'a pas vraiment d'ossuaire.
Ah, d'accord. C'était une zone d'offrande
Non, c'était une tombe, mais où dans laquelle on a mis que quelques petites grammes d'os, de manière éparse.
Okay.
Donc chaque tombe est extrêmement différente.
Et donc ici, qu'est-ce qui vous intéresse spécialement? C'est-à-dire, ou qu'est-ce qui est vraiment original? Ou est-ce que pour vous, c'est,
C'est banal.
Non, alors banal, non. Déjà, clairement, ce sont des. Enfin, le vert, c'est toujours.
Extraordinaire.
C'est toujours très. Ouais, et puis ouais. C'est beau. Enfin, mm-hmm. C'est extrêmement esthétique. Enfin, ouais, ouais. Voilà.
On était tous là penchés voilà, pour voilà, voir la beauté.
Le bleu du vert, ça marche
quand même
toujours.
Que ça a plus de 2000 ans.
Oui.
Que,
eh ben oui.
C'est ça. Aussi.
Et on a, aussi encore cette magie-là. Oui. Et les gens qui se sont recueillis dessus. Et moi, là, ce qui. Après, moi, en tant qu'archéologue, plus ce qui va m'intéresser, c'est de voir que l'amphore s'est effondrée dedans. Ce qui veut dire que c'était pas comblé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de terre.
Ouais.
C'est-à-dire que donc il y a forcément une couverture, quelque chose que je pourrais restituer.
Mmh. D'accord.
Alors que là, on la voit pas du tout.
Oui, dans tous les témoignages là que j'ai fait avec vous, avec tous les spécialistes, on voit qu'il y a la fouille et puis il y a tout le travail après.
De réflexion. En fait. Eh oui, d'analyse.
Et c'est aussi important l'un que l'autre en fait.
Ah oui.
Ouais. Bah, l'un sans l'autre ne sert pas à grand-chose.
Ah bah, si on fouille et qu'on n'analyse pas, c'est pas de la fouille, c'est du pillage, en fait.
Ouais,
hein.
Ouais.
On est dans du...
Non, mais c'est important,
voilà, non, mais vraiment,
l'INRAP,
c'est ça.
Quoi.
L'INRAP, c'est ça, c'est aussi étudier, comprendre...
Et ça sert à la mémoire.
Ça quoi, sert à la mémoire. Puis il y a déjà eu quand même pas mal de... Quelques fouilles qui ont déjà eu autour, qui se sont faites
donc,
le long de la rue Beaucaire. Donc
quartier,
on peut, voilà, après, au fur et à mesure, restituer quand même tout le quartier, quoi.
Moi, je suis très émue devant cette tombe parce qu'on a beau les voir très bien reconstituées dans les musées,
ouais, c'est pas pareil,
ça n'a jamais cette même intensité-là, de se dire, là, il y a un être humain qui a vécu, il y a, comme vous venez de le dire, ses proches qui se sont recueillis devant lui ou elle.
Ouais.
Merci beaucoup et bonne fouille.
Ben, merci beaucoup.
Alors, nous continuons... J'allais dire la fouille, non. Nous allons... La découverte de la fouille, donc avec Sébastien Pansin. Donc vous êtes plus spécialisé dans les murs.
Non, pas vraiment. Non. Je suis en tant que responsable de secteur, je travaille sur le secteur de la voie. De la voie donc de Grésan.
Marie Rochette nous a expliqué donc sa découverte, Yves Debreuil également. Et alors comment vous travaillez, nos auditeurs ne peuvent pas voir. 15 mètres, on a du mal à le visualiser. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus grand.
Non, elle fait bien 15 mètres de large. Donc, elle est structurée par deux murs bordiers, un au nord et un au sud, que vous voyez là. Et l'ensemble de cette emprise, on a les différentes phases de voirie qui se sont succédées dans le temps. Donc, nous, nos travaux, c'est justement la première chose, c'est de les étudier, de les fouiller une par une et d'en sortir un maximum de données scientifiques. Et notamment la chronologie. Et la chronologie nous permet pour l'instant, en l'état actuel de nos recherches, parce qu'on n'a pas, on affinera un peu après avec les travaux de post-fouille, tout ça, mais ça nous permet de percevoir que cette voie est mise en place à la fin du deuxième siècle de notre ère. Et suite aux différentes réflexions qui ont émaillé, qui sont faites sur des rythmes de 50, 70 ans.
Oui, ça s'use.
Donc ça a besoin d'être remis en état. Et
là,
voilà.
On voit très très bien en fait les différentes couches.
Voilà. Ouais. On marche sur la plus ancienne, là.
Voilà.
Et puis en allant vers l'est, on a fait une sorte de dégradé en fouillant qui nous permet d'arriver sur la voie la plus récente, qui elle, donc... serait plutôt abandonné, on va dire, la moitié du deuxième siècle de notre ère.
Abandonné, pourquoi ?
Abandonné, alors sûrement que la voie domitienne a pris plus d'importance et a pris le dessus. Cet espace qui était structuré qui était entouré de petites nécropoles et tout, donc a pu continuer à accueillir des tombes, tout ça. Mais il semble que la voie, au bout d'un moment, elle soit abandonnée, elle ne soit plus utilisée. Ou du moins, s'il y a eu un état... On va dire, à cette époque-là, il n'est pas conservé. Nous ne le voyons pas. Quoi. Voilà.
Et quand vous fouillez, parce que ça fait 15 mètres de large, comment vous avez fouillé ? Vous avez fouillé les 15 mètres d'un coup ou
alors,
faites par petits morceaux ?
Alors, on l'a fait par section, par espace qui était disponible.
Vous ne saviez pas au début combien ça ferait de large ?
Si, on le savait. On le savait à peu près parce que les résultats du diagnostic nous donnaient une idée d'où trouver la voie et de sa largeur et de son épaisseur aussi, de sa puissance stratigraphique. Donc, on avait quand même tout ça en idée. Après, la problématique, c'était d'éviter toutes les perturbations modernes moderne et contemporaine. Comme là, sous mes pieds, il y avait une cave, donc qui a détruit complètement les niveaux archéologiques, plus les murs des bâtiments existaient. Voilà. Ouais. Donc en fait, on a une sorte de petit puzzle à la fin, mais on a pu dégager secteur par secteur. Et on est parti de la partie est, sur la voie la plus récente. Jusqu'à... Et on est descendu en allant vers l'ouest et en allant plus bas, en chronologie, jusqu'à la voie la plus ancienne, qui est directement, elle, implantée sur le substrat rocheux. Là-dessous, c'est pas la peine d'aller voir, on n'aura plus rien. On est vraiment sur du rocher.
Mais en fait, c'était quasiment la même hauteur qu'actuellement. Je veux dire, il n'y a pas eu grande différence, 50, 60 centimètres.
Voilà, c'est ça, effectivement.
Les voies sont beaucoup plus basses qu'actuellement, alors que là, 60 centimètres...
On va dire que ça dépend des contextes géomorphologiques des endroits, s'il y a eu beaucoup de remblaiements ou de sédiments qui sont arrivés. Mais là, effectivement, on voit que les niveaux de voies les plus récents, ils étaient vraiment à 40 centimètres de la surface actuelle, quoi, du sol contemporain.
Quand vous fouillez, vous trouvez des objets ou non, puisque c'est vraiment des remblaiements, utilise vraiment les choses...
Il y a vraiment des couches où il n'y a vraiment que du caillouti, où vraiment, très occasionnellement, on va trouver un petit tesson qui s'est retrouvé mêlé là-dedans. Par contre, on voit que dans l'espace centrale, par exemple, là, il y a un moment entre la deuxième et la troisième voie, il y a eu nécessité de remettre à plat la bande de roulement, et là il y a eu des apports importants de sédiments et de mobilier brisé, donc des déchets de consommation, c'est de la faune, c'est de la céramique brisée, et qui ont permis, c'est des poubelles donc, qui ont été jetées, et qui ont permis de remblayer pour remettre à plat. Et sur ce niveau-là, ils ont installé donc la voie que vous voyez qui est matérialisé par ce niveau de gros blocs un peu émoussés sur lesquels ils ont roulé.
Ce que je disais à Marie Rochette, c'est que là où il y a la complémentarité de tous vos travaux, de toutes vos spécialités, parce que vous mettez en évidence la voie, et puis après, il y a tous les archéologues qui vont travailler
et
pour
après,
étudier,
voilà, il y a tous les spécialistes, c'est ça, qui vont venir travailler, soit sur la céramique, sur les amphores, sur la faune, on a beaucoup de coquillages une grosse consommation de coquillages.
Donc il y a énormément de spécialités.
C'est ça.
Pour vous qui avez fait, je suppose, beaucoup de chantiers, quelle est l'originalité ou vraiment la spécificité de cette voie? On ne trouve pas tous les jours une nouvelle voie, tout de même.
Non, on n'en trouve pas tous les jours. Bon, celle-là, elle était connue, mais pas trop. Donc on va pouvoir apporter beaucoup d'informations scientifiques sur cette voie-là. Et alors,
sa largeur peut-être?
Sa largeur,
15 mètres,
oui, sa largeur. Un truc. Alors moi, je vous avoue que j'étais pas spécialiste des voies, c'est la première fois que je travaille sur une voie.
Vous avez de la chance là.
Voilà. Donc là, on est plutôt bien loti. Mais je pense que c'est quand même quelque chose d'assez, fait partie des voies bien importantes. Quoi.
Spécialiste avant de...
Moi, je suis plutôt sur les périodes anciennes, de la fin de l'âge du bronze et le début de l'âge du fer.
Voilà. Donc il faut être polyvalent.
On s'adapte en fonction des besoins d'opérationnel. Quoi.
Voilà. Donc bonne fouille.
Merci beaucoup.
Bonne découverte. Merci à vous.
Merci beaucoup.
N'hésitez pas à aller sur le site internet de l'INRAP afin de découvrir toutes leurs recherches et découvertes archéologiques. Avec les gens.